explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Le temps d'un bivouac.
C'est un écrivain voyageur dont l'œuvre est passée totalement inaperçue de son vivant. Mais derrière les quelques livres publiés dans l'indifférence générale, sommeillait une œuvre immense et labyrinthique. Des écrits découverts et appréciés à leur juste valeur par la suite, à tel point qu'un peu plus de 100 ans après sa mort, cet auteur, Victor Segalen, vient de faire son entrée dans la Pléiade. L'occasion aujourd'hui de partir sur les pas de ce mystérieux écrivain aux multiples facettes. Tour à tour essayiste, poète, romancier, photographe, mais aussi médecin de marine, ethnologue, archéologue, ce voyageur tourmenté à la curiosité méticuleuse a pèleriné sur les traces de Gauguin aux Marquises et sur celles de Rimbaud à Djibouti. Passionné par la Chine et son histoire, il a aussi chevauché à travers l'Empire du Milieu jusqu'à se risquer dans la cité interdite de Pékin. Une vie trépidante que l'écrivain Jean-Luc Coitalem raconte dans une biographie intitulée « Mes pas vont ailleurs » aux éditions Stock. Cet après-midi, de la Bretagne à la Chine, en passant par la Polynésie, Jean-Luc Coitalem nous guide dans le dédale de l'œuvre et de la vie du mystérieux Victor Segalen. Cette émission est réalisée par Hélène Kouyoumdjian et préparée par Claire Tesser, avec à la technique Mathias Alléon. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
J'ai toujours tenu pour suspect ou illusoire des récits de ce genre. Récits d'aventures, feuilles de route, racontards, joufflus de mots sincères, d'actes qu'on affirmait avoir commis dans des lieux bien précisés au long de jours catalogués. C'est pourtant un récit de ce genre, récit de voyage et d'aventure, que ce livre propose dans ses pages mesurées, mises bout à bout comme des étapes. Mais qu'on le sache, le voyage n'est pas accompli encore. Le départ n'est pas donné. Tout est immobile et suspendu. On peut à volonté fermer ce livre et s'affranchir de ce qui suit. Que l'on ne croit point du même geste s'affranchir de ce problème. L'imaginaire déchoit-il ou se renforce quand il se confronte au réel ?
Victor Segalen débute par ces mots et cette interrogation, son livre intitulé « Équipé, voyage au pays du réel ». Bonjour Jean-Luc Coitalem.
Bonjour.
Cette question de la relation entre le réel et l'imaginaire est une des questions centrales de l'œuvre de Victor Segalen.
Tout à fait, c'est même son axiome fondateur. Le réel déchoit-il vis-à-vis de l'imaginaire et l'imaginaire est-il finalement nécessaire, obsédamment nécessaire pour que le réel existe? Victor Segalen est écartelé et en même temps dopé par ces deux notions, le réel et l'imaginaire. Et c'est sur cette construction, en fait, qu'il va bâtir son œuvre.
Et il y a une part de mystère dans la vie et dans l'œuvre de Victor Segalen, une œuvre tentaculaire, insoupçonnée hein, de son vivant, une vie trépidante mais courte. Hein. Il meurt à 41 ans en 1919 et un peu plus de 100 ans après sa disparition, sa mort reste l'un des grands mystères de son existence.
Oui, vous avez raison de rappeler que son œuvre n'est pas apparue d'une certaine façon. Il n'a publié de son vivant que 3 livres, les immémoriaux, les stèles et peintures. Peintures en 1916 dont il mettait en préambule. Ce texte s'excuse de ne contenir aucun récit de guerre, aucune allusion au temps présent. C'est un livre profondément inactuel. Il le publiait en 1916 au moment de Verdun. Et aujourd'hui, La Pléiade, en 2 volumes, sort son œuvre intégrale, quasiment intégrale. Il manque quelques textes, mais presque tout est présent. Et c'est l'occasion de revenir sur cet auteur finalement qu'on n'a pas vu passer, qu'on n'a pas vu vivre et qu'on n'a pas vu mourir. Et sa mort est très importante parce que je dirais que c'est la porte d'entrée sur ce personnage. C'est une mort qui se déroule en 1919. Aujourd'hui encore, On ne sait pas si c'est un suicide ou si c'est une mort accidentelle. Il faut imaginer la forêt du Welgoat.
On est en Bretagne.
On est en Bretagne.
La forêt de Brocéliande.
On dit que c'est la forêt de Brocéliande. On dit qu'il y a un camp, une ancienne forteresse du roi Arthur. Il y a une mare aux fées. Il y a un gouffre dans lequel une princesse jetait ses amants. Et sur un tertre, au-dessus de ce gouffre, Victor Ségalen va être retrouvé le 21 mai 1919. Il est alors en grand uniforme d'officier. Il a à ses côtés un volume de Shakespeare, Hamlet. Il a glissé dans les pages de ce volume un certain nombre de feuilles qu'il a cueillies autour de lui et qui semblent indiquer un dernier poème, une sorte de dernier message à son épouse. Et il a au pied une blessure. Les deux personnes qui vont le retrouver diront qu'il ressemblait à un promeneur qui a eu chaud. Et effectivement, Ségalen meurt dans cette forêt du Welgoat, seul, sevré d'opium, maigre comme un hippocampe, au bout de sa vie, à 41 ans.
Et toute la question est de savoir, on sent en lisant votre ouvrage que vous penchez vers la thèse d'un suicide mis en scène. Certains disent que c'était un accident, d'autres que c'était un suicide accidentel. On ne sait pas exactement, finalement, ce qui est arrivé.
Oui, on ne sait pas, et tant mieux. En tout cas, il est à la fin de sa vie, il est revenu de Chine, après 3 séjours en Chine, un très long séjour, et puis un séjour plus court, mais le premier séjour, c'est divisé en deux, et il a essayé de se sevrer de l'opium. C'est un officier de marine qui a tiré sur le bambou, je dirais, selon l'expression, très tôt. Il essaye de se sevrer de l'opium. Il est partagé entre deux femmes, entre Yvonne et Hélène. Yvonne, son épouse, fidèle épouse, et puis Hélène, cette femme qu'il découvre à la fin de sa vie, et qui est comme une sorte de messagère qui va pouvoir le pousser, l'emmener vers cette frontière. À l'une, il écrit sur du papier blanc, à l'autre, il écrit sur du papier jaune.
Et il n'écrit pas la même chose.
Il n'écrit pas la même chose.
Il brouille les pistes en permanence.
Il brouille les pistes.
Mais c'est symbolique de son œuvre, toujours en double fond, toujours des codes à décrypter.
Oui, son œuvre est complexe. Comme je disais tout à l'heure, elle n'est pas finalement parue de son vivant. Toute sa vie va être un petit peu codée. Sa correspondance, par moments, est codée. Il a fait détruire un certain nombre de lettres. Son journal intime a été détruit. On ne sait pas, par exemple, quelle est la teneur de la correspondance avec sa femme. Certes, on a ses lettres de lui vers sa femme, mais on n'a pas les lettres de sa femme vers lui. Et c'est un personnage complexe, mais dès le début. Son enfance, déjà, est un petit peu extraordinaire.
Oui, parce que Victor Ségalen a parcouru le monde avec une curiosité insatiable, une vie de baroudeur presque surprenante, justement, lorsque l'on considère l'enfant fragile qu'il a été, à en croire ses propres récits.
J'étais d'un poids médical insuffisant. Et la science, vexée par ma persistance à vouloir vivre quand même, me déclara bon pour certaines maladies pulmonaires qui n'ont jamais voulu de moi, mais qui m'imposèrent longtemps la plus honteuse humiliation qu'un homme de 6 à 16 ans puisse éprouver. J'avais défense de trop courir avec les autres, défense d'avoir chaud jusqu'à la sueur, encore plus d'avoir froid jusqu'à la glace. Ce fut le premier et étrange service que me rendit ma mère. « Tu n'es pas comme les autres. Tu ne seras pas comme les autres » fut le mot magique qui défendait, interdisait, promettait aussi des merveilles. D'abord, j'ai protesté. Je me suis débattu. Je finis par en convenir.
Extrait de Essai sur moi-même de Victor Ségalen. Jean-Luc Coitalem, il y a peut-être dans ces quelques mots les clés, un début d'explication pour comprendre déjà ce besoin de voyage et puis l'envie de s'affranchir des règles et des codes.
Oui, et puis cette phrase magique, il le dit, de sa mère, « Tu n'es pas comme les autres, tu ne seras pas comme les autres ». Et Victor Ségalen, effectivement, ne sera pas comme les autres. C'est un enfant un petit peu chétif, malingre, nerveux, intelligent, très intelligent, et sujet par exemple à des synesthésies, des associations de sens. Alors par exemple, il a, pour les tonalités musicales, il a une correspondance avec les couleurs.
Et puis, une note correspond une couleur.
À une note correspondrait une couleur. Il a un dialogue d'ailleurs avec Saint Paul Roux, où Saint Paul Roux dit que effectivement les hautbois sont mauves. Les hautbois sont mauves, ok. Et puis, il colorie aussi, il dit, il y a au moins trois voyelles auxquelles je donne des couleurs. Et pendant une longue partie de son enfance et de son adolescence, plutôt de son adolescence, il va vouloir être compositeur. Et il va effectivement composer de la musique, des chansons noires, des chansons roses, des chansons vertes. Et déjà, on sent dans cette association de mots les deux sens. C'est un personnage qui est enfermé, qui est un petit breton, un petit brestois, avec une mère dominatrice. Et cet enfant surdoué, en fait, échappe à ses parents grâce à sa bicyclette. Il a une bicyclette à l'époque, qui est finalement son premier cheval, avec lequel il va parcourir la Bretagne. Et son premier voyage, ce sera dans la forêt du Houellegouët. Là, on va le retrouver. C'est ça. Quelques années plus tard,
c'est
pour
là
la
où,
mort.
C'est là où on le retrouvera mort. C'est là où il va dans cette forêt éprouver pour la première fois le frisson de l'aventure, de la découverte, de l'exploration.
Oui, et puis il ne faut pas oublier que Brest est une ville ouverte sur le monde. C'est le Finistère, je suis finistérien moi-même. Finalement, le Finistère, c'est là où tout commence. Les bateaux partent, les bateaux arrivent, ramènent des choses, ramènent des gens, ramènent des histoires. Mmh. Et il y a probablement dans tout petit Brestois, en tout cas à l'époque, dans tout Finistérien, un désir d'ailleurs. Ouais. Et Ségalène est un Breton d'ailleurs dès le début.
Oui, en ça, vous vous retrouvez un peu en lui, vous aussi, écrivain voyageur, Jean-Luc Coitalem. Alors, il a aussi cette dimension d'être un homme très tourmenté, très jeune. À la fois, il a ses fugues, ses crises ambulatoires, comme vous les appelez, mais aussi ses crises de neurasthénie.
Oui, il a les défauts de ses qualités ou les qualités de ses défauts. Et effectivement, c'est un être hypersensible. Et il subit un certain nombre de dépressions qui posent vraiment problème. Il va d'ailleurs se tourner, sa mère le pousse à être, sinon prêtre, du moins pharmacien, mais il va se tourner vers la marine. Et lui qui trouvait la mer, disait-il, nauséeuse et bête, il va devenir médecin de marine. Et il va, grâce à cette fonction, grâce à ce métier, partir enfin du Finistère et rejoindre pour la première fois la Polynésie.
Oui, la Polynésie, ce sera son premier grand voyage et il y en aura d'autres. Nous allons le suivre dans ses aventures cet après-midi avec vous, Jean-Luc Cloitalem. Le temps d'un bivouac, des îles Marquises à la cité interdite de Pékin en passant par Djibouti, sur les traces de Victor Ségalène.
Calme la mer, efface-la.
C'était Laura Caen qui chantait La Jetée sur France Inter.
Ce matin, avant le jour, s'est dessinée la silhouette triomphante et parfumée de Tahiti. Pendant que, derrière nous, les gros cumulis se bousculent sur un ciel gris-bleu, arrière-garde attardée de l'orage d'hier, c'est en face, dans un ciel pâle, la découpée brutale de l'île attendue. Elle se lit, inscrite en violet sombre, sur la page délavée du ciel. De gauche à droite, un éperon longuement effilé, puis une crête déchiquetée qui le prolonge, puis deux pics, dont le géant de l'île, puis un autre sommet, et encore une pente lente vers la ligne d'horizon.
23 janvier 1903, Victor Segalen accoste à Tahiti. Jean-Luc Coitalem, vous êtes l'auteur d'une biographie de Victor Segalen aux éditions Stock, intitulée « Mes pas vont ailleurs ». Ce voyage en Polynésie est le premier grand voyage de Victor Segalen, qui a alors 25 ans.
Oui, il rejoint son affectation à Papeete, il rejoint un navire qui s'appelle la Durance. Il va avant cela traverser les États-Unis où il sera atteint par la fièvre, par une fièvre typhoïde dont il réchappera. Et donc il arrive à Tahiti d'une certaine façon renaissant, survivant, et il arrive sur ces îles où il va connaître un éblouissement et en même temps une angoisse. Un éblouissement par rapport au paysage, un éblouissement par rapport à la nature, un éblouissement de vivre, tout simplement, et une angoisse, car il prend conscience, effectivement, que la civilisation européenne est en train de détruire la civilisation tahitienne, maori, chose qu'avait déjà compris Paul Gauguin, car évidemment, en 1903, il y a encore Aïvaoua dans les îles Marquises, l'incroyable peintre qu'est Paul Gauguin. Ouais,
sur lequel vous avez aussi écrit, qui vous fascine tout autant que Segalen.
Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, Paul Gauguin qui est seul dans cette petite île, à Ivaoa, dans les Marquises. Les Marquises, c'est un archipel qui est à peu près 1500 km au nord de Tahiti. Et Segalen va être l'un des premiers à réceptionner, si j'ose dire, l'héritage de Paul Gauguin.
Parce qu'il le manquera de peu. Finalement, ils sont contemporains. Quand il arrive à Tahiti, Paul Gauguin est encore en vie. Mais le temps que Segalen prenne le temps d'aller jusqu'aux Marquises...
Oui, alors il est dépendant aussi des affectations et puis des rotations de son bateau. Et à ce moment-là, les Tuamotu ont été ravagés, qui est un autre archipel, ont été ravagés par un cyclone. Voilà. Et c'est ensuite qu'ils vont arriver à Tahiti, à Ivaoa. Et là, Paul Gauguin est mort d'une overdose probablement de morphine dans son petit faré d'Atunoa à Ivaoa. Et Segalen va pérégriner pieusement dans le faré de Gauguin et va rapporter un certain nombre de toiles, dont cette toile. Et dont une toile qui n'est autre qu'un petit village breton sous la neige.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en allant jusqu'aux Marquises, une des dernières toiles peintes par Gauguin, c'est un petit village.
Alors, il a cru que c'était une dernière toile de Gauguin, peinte par Gauguin, mais en fait, elle avait été peinte précédemment et Gauguin l'avait apportée avec lui. Il va ramasser des photos, des documents, des manuscrits, des toiles, des bois sculptés, mais surtout, il va comprendre que, à son tour, il est artiste.
Oui, c'est ça. Victor Segalen prend conscience aussi du rôle, vous le disiez, des Européens sur les populations locales et leur culture. Voici ce qu'il écrit à une de ses amies, Louise Ponty, en août 1903.
Leurs dieux maoris ont disparu à l'importation de nos croyances méditerranéennes et sémites. La Bible les a frappés. Christos a tué Tahaora. Ainsi pensait Gauguin, ce très pur artiste réfugié aux Marquises, vers qui, depuis mon départ de France, je pérégrinais affectueusement et que j'ai rejoint enfin mort. Les dieux sont morts et Tahiti meurt de leur mort, ai-je pu déchiffrer en épigraphe à l'entrée de cette case marquisienne où j'ai senti flotter quelque chose de grand. J'aurais pleuré. Gauguin fut exténué des horizons contemporains et chercha un recul dans l'espace. Lui seul a senti d'inexprimables choses. Un bateau a ramené à Tahiti les quelques pauvres choses qui lui restaient encore. On vend. Je ferai acte de piété en réunissant le plus de ses notes, de ses livres, de ses manuscrits que moi seul ici puisse savourer. j'ai déjà tout dépouillé, classé, pris des notes. Documenté très intimement sur lui, je me pose dans la colonie comme son intraitable champion.
Jean-Luc Coitalem, pourquoi ce lien presque filial entre Ségalène et Gauguin ?
Alors d'abord, il y a un maillage entre les artistes. On croit que les artistes partent comme ça, s'établissent ici ou là. Mais en fait, Gauguin était parti en Polynésie à cause de Loti, à cause du roman de Loti. Et ils espéraient tous retrouver de l'autre côté des mers une sorte de ce que Rimbaud appelait une vie libre, errante, gratuite. Or, on sait bien que la vie est entravée, coûteuse et sédentaire. Et donc, c'est une sorte de rêve européen qui est projeté presque maladroitement, mais en tout cas avec une certaine effusion sur ces terres vierges, sur ces îles, où ils estiment que, voilà, il peut être question là-bas de renaître enfin à soi-même.
Vous disiez que Ségalène devient artiste au contact de l'œuvre de Gauguin. Est-ce qu'il se fait aussi ethnologue, ethnographe sur ces terres polynésiennes ?
Bien sûr, il va, comme il dit, recevoir presque, comme ce sera le cas en Chine, l'idée d'un livre, et il va écrire Les Immémoriaux. Les Immémoriaux, c'est un texte qui est une sorte de roman ethnographique et qui, pour la première fois dans la littérature française, inverse le regard. C'est-à-dire que ce ne sont plus des Occidentaux qui regardent les Polynésiens, mais là, ce sont les Polynésiens qui racontent leur vie. Alors vous me direz, il reste toujours occidental. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, il se fonde comme ça dans la geste des îles, des dynasties, des migrations dans les îles, inter-îles. Et c'est en interrogeant une vieille Polynésienne, une vieille marquisienne, en lui faisant remonter avec cette tresse, cette espèce de cordage tressé avec des nœuds, elle lui raconte, qui est une sorte de processus mémotechnique, elle lui raconte les dynasties, Oro, fils de Teva, Teva, fils de... etc. Et tout d'un coup, Ségalène comprend que il est l'un des derniers témoins de cette oralité, de cette tradition qui est en train de se perdre, et il va écrire Les Immémoriaux, qui est son premier livre, qu'il publiera
À compte d'auteur,
sous pseudonyme, en 1907, en 1909, pardon, espérant le Goncourt, auquel il n'aura aucune voix. Et d'ailleurs, dans sa correspondance, il dit à ses amis, je vous annonce que le Goncourt vient de ne m'être pas donné.
Oui.
Voilà. Alors, il se foutait un peu du prix Goncourt. Il avait tort, évidemment. Mais, c'était pour avoir de l'argent et ne plus avoir à travailler. Il estimait que cette manne financière aurait pu un peu le dégager des obligations.
Oui. Alors son rapport justement aux autres, à ces populations lointaines, va lui valoir par la suite, même si les Immémoriaux passent inaperçus, hein, ils passent à côté du Goncourt, mais aussi des lecteurs et du public, mais bien après, on va lui reconnaître ce talent, ce regard, ce changement de regard de l'Occident sur ce qui n'est pas l'Occident, et notamment Édouard Glissant, oui.
Oui, bien sûr.
Va avoir des mots pour lui. C'est une pensée occidentale qui se régénère, c'est un tournant.
Exactement, et Ségalène est d'une certaine façon partout. Il est dans l'œuvre d'Édouard Glissant, Leclésio en a parlé, Kenneth White a écrit dessus, Nicolas Bouvier l'a évoqué, François Tcheng lui a consacré un livre, Michel Onfray, il y a encore 2 ans, a fait quelque chose dessus, Régis Debray le cite à tour de bras, et j'ai même assisté, je cite même pas Henri Michaud, qui l'évoque à un moment, mais j'ai même assisté à une conférence d'Edwy Plenel sur Ségalène. En fait, on a tous en nous quelque chose de Ségalène, si j'ose dire, parce que il pose la question de l'autre. Alors, c'est une question qui, effectivement, en 1909, pouvait un petit peu surprendre, c'est-à-dire l'équivalence des culture, la nécessité de l'autre pour être soi, puisque là, Ségalène met en place dès le début sa théorie sur l'exotisme. Pour lui, l'exotisme est un concept qui est arc-bouté sur le divers, le grand divers. Et pour lui, le divers, alors je vous cite, c'est tout ce qui est étranger, insolite, inattendu, surprenant, amoureux, héroïque, mystérieux. Bref, tout ce qui est autre et qu'il faut accueillir, puisque c'est l'autre qui, par définition, par soustraction, fait que je suis moi.
Alors on y reviendra à cette question de l'exotisme et du divers, qui est centrale hein, dans l'œuvre, là encore, de Victor Ségalène. Un mot tout de même, Gauguin. Il a rendez-vous avec son œuvre, mais c'est une rencontre posthume. Oui. Ça va aussi se produire avec Rimbaud. Hein. Au retour, il passe par Djibouti. Et là encore, c'est toujours un peu des rendez-vous manqués avec ses
personnalités. Alors, c'est des rendez-vous physiques manqués, mais pas des rendez-vous artistiques. Ça, au contraire, c'est, je crois, très réussi. Et si Gauguin je pense que Gauguin aurait de toute façon existé sans Ségalène, mais il a ajouté une pierre non négligeable à la compréhension de Gauguin. Il a écrit 3 textes dessus. Il a voulu d'ailleurs faire un livre qui se serait appelé Le Maître du Jouir, puisque vous savez que la maison, le phare de Gauguin et Ivaoa s'appelait la maison du jouir. Alors, c'est un mot un peu étrange, la maison du jouir, mais parce que dans jouir, il y a oui, il y a ouïr, il y a jour. C'est être là, finalement, dans une sorte de plénitude presque philosophique. Oui, le rendez-vous avec Rimbaud est raté, puisque Rimbaud meurt en 1891 et Ségalène arrivera un petit peu plus tard à Djibouti, mais il va interroger ici et là les derniers témoins de Rimbaud. Il s'interroge pourquoi Rimbaud, en fait il a écrit un livre qui s'appelle un article qui est devenu un livre qui s'appelle Le Double Rimbaud. Pourquoi Rimbaud a-t-il arrêté d'écrire et pourquoi Rimbaud s'est-il jeté dans la géographie? Qui sont des questions que lui-même se pose en tant que Victor Ségalène.
C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il y a en Gauguin et en Rimbaud des éléments qu'il retrouve, ces hommes un peu en fuite, ces hommes qui courent après des ailleurs, mais toujours avec une certaine insatisfaction perpétuelle?
Oui, mais ça, c'est le principe de la condition humaine, d'être dans l'insatisfaction perpétuelle. Gauguin, alors, si vous me lancez sur Gauguin, on est foutu, mais Gauguin, effectivement, est un fugitif. Rimbaud change de vie. Ségalène, lui, suit quand même des mutations. Hein. D'ailleurs, le mot est intéressant, des mutations militaires, puisque il est affecté. Il est affecté en Polynésie et il va l'être bientôt en Chine. Donc, c'est une fuite, je dirais, formalisée. Ouais. Hein. Alors que les deux autres, les deux précédents, qui ont tellement compté pour lui, ce sont plutôt des fuites un peu désorganisées.
Ouais. Et en Chine, Victor Ségalène va se prendre de passion pour la vie des derniers empereurs, pour la cité interdite. Il va mener de grandes expéditions à cheval à travers ce pays immense, faire des découvertes archéologiques majeures. C'est ce que nous allons découvrir avec vous, Jean-Luc Coitalem, dans la suite de ce temps d'un bivouac sur les pas de Victor Ségalène. Bel après-midi sur France Inter. The Doors Open, c'était Bruno Mars et Boosty Collins sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Tout s'endort hormis la ville dont les lumières s'agitent. Elle est effrayante à cette heure exacte. Effrayante d'arrière-monde et de rêves réalisés. Ceci est la Chine. La file des lanternes, la plongée des toits, l'alignement des dalles, cela joue, s'allonge, se courbe ou s'enfuit, selon le hasard des pas. Mais cela va donc où? Ailleurs que très loin, ailleurs que jamais, ailleurs qu'on ne peut aller, enfin, avec des mules, des gens, des pas. Ailleurs. Dans cette vaste Chine imaginaire, façonnée d'échecs, de lumière, de relents, de désirs, d'effroi et d'attirance.
La voix de Michel Bouquet lisant en 1969 l'extrait d'une lettre envoyée par Victor Segalène à son ami, le compositeur Claude Debussy. Jean-Luc Coitalem, on entend dans ces quelques mots ce que Victor Segalène attend de la Chine, qu'elle le transporte ailleurs, au-delà du très loin.
Oui, c'est très émouvant d'entendre sa voix tout d'un coup avec celle de Michel Bouquet de surcroît, parce que la correspondance de Victor Segalène est capitale. Il a écrit de son vivant entre presque 1600 lettres, les lettres d'une vie qui ont d'ailleurs été republiées à l'occasion de la Pléiade. Et on voit apparaître effectivement cette quête intime, profonde de Victor Segalène, pour qui la Chine, dit-il, est la plus antipodique des matières. Il arrive au moment où les dynasties impériales se meurent. Guangxu, le dernier empereur, enfin l'avant-dernier empereur, a été probablement assassiné par Cui, l'impératrice Cui, et se met en place un enfant homme, un enfant homme empereur, Puyi, qui est à la fois le maître du sol et le fils du ciel, et qui réside au cœur de la cité interdite. Et Segalène y voit probablement une métaphore. Il est, dit-il, le plus pathétique des vivants, cet enfant roi, cet enfant empereur. Et Segalène ne va cesser d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de cette cité interdite, ouais. Puisque selon lui, effectivement, le dedans commence dehors. C'est-à-dire, ces voyages au loin ne sont finalement que des voyages au fond de soi, et allant vers la Chine, allant vers la plus antipodique des matières, donc pour un Européen, Eh bien, je vais vers moi-même.
Ouais, alors, il va vers lui-même et vers le cœur de cette cité interdite qui le fascine. Il entame un manuscrit, le Fils du Ciel, pour raconter justement l'histoire de Kuang Xiu, cet empereur qui s'est fait assassiner. On l'a compris plus tard, par des études. Il avait mangé des yaourts à l'arsenic. J'ai appris tout ça en lisant votre livre.
Des yaourts, effectivement. Il faut toujours se méfier des yaourts.
Mais finalement, cet ouvrage, Le Fils du Ciel, il va finir par délaisser son écriture parce que finalement trop complexe peut-être. Et par contre, il va se prendre de passion pour les récits d'un jeune homme dont il fait la rencontre, Maurice Roy. Qui est-il, Maurice Roy ?
Alors oui, il abandonne ce projet gigantesque, même s'il reste une trace évidemment de ce texte qui s'appelle Le Fils du Ciel, parce que étant en Chine pour apprendre le chinois, on lui conseille un jeune homme qui est en fait le fils du directeur des postes de Pékin, dont il reste encore le bâtiment. Je suis allé moi-même dans ce bâtiment, c'est transformé en restaurant chinois, ça, je vous apprendrai rien. Et ce garçon énigmatique à la beauté visiblement implacable, parle chinois, parle plusieurs dialectes chinois et se propose d'être son tuteur d'une certaine façon pour que Victor Segalen progresse dans la langue chinoise. Et Maurice Roy, au fur et à mesure des rencontres, va devenir de plus en plus romanesque, va devenir de plus en plus délirant, affirmant bientôt qu'il appartient à la police secrète, affirmant ensuite qu'il a accès à la cité interdite, affirmant aussi qu'il est l'amant de l'impératrice.
Et Victor Segalen le croit. En tout cas, il veut le croire.
En tout cas, Victor Segalen veut le croire et il va tenir un carnet qui s'appellera Les Annales de Maurice Roy, dans lequel il va consigner toutes ses rencontres. Mais Segalen suscite aussi ce désir d'histoire. Ouais. Il est un petit peu comme c'est un peu les contes des mille et une nuits, c'est un peu Scheherazade. Ouais. Il faut continuer l'histoire pour que l'obscurité ne vienne pas. Et donc il va aller jusqu'au bout et à un moment donné où Maurice Roy, alors dont il n'a jamais réussi vraiment à percer la vérité ou le mensonge, hein, oui ou non. D'ailleurs, le texte qu'il va écrire ensuite, qui s'appelle René Leys, se terminera sur cette phrase, oui ou non. Tout cela était-il vrai ou tout cela était-il faux ?
Alors je précise, pour qu'on continue à vous suivre, René Leys, c'est un roman qui retrace en fait sa relation avec Maurice Roy et tout ce que Maurice Roy lui a raconté de ses prétendus agissements dans la cité interdite. Oui. Il calque cette relation très spéciale qu'il a, alors elle est très ambiguë, certainement amoureuse, voire sensuelle, mais à l'époque tout ne se dit pas, alors il faut savoir lire entre les lignes.
Oui, il y a probablement une attirance de Victor Segalen pour ce jeune homme qui lui-même avoue qu'il est homosexuel. Il a aussi une attirance pour cet homme qui finalement traverse les strates de la société, traverse les interdits, traverse les langues, traverse la sexualité, et il y voit comme un moteur même de narration. Et à partir de cette rencontre et de cette fréquentation, il va écrire René Leys. Et René Leys, René, renaître, évidemment. Et Leys, c'est le mot à l'envers de ciel, phonétiquement.
Décrypter le code chez Segalen.
Et puis c'est proche de lies, qui veut dire mensonge en anglais. Donc le mensonge qui renaît. Bon. Et j'ai eu la chance de manipuler les lettres qu'écrivait Maurice Roy à Victor Segalen, qui sont des lettres qui, dit-il, sont envoyées de la cité interdite. Ce sont des lettres extraordinaires qui sont sur papier rouge, écrites à l'encre blanche. Certaines ont un S qui veut dire secret, certaines ont un O qui veut dire officiel. Et il raconte qu'il est, à ce moment-là, dans la cité interdite, avec l'impératrice. Et le problème, c'est que l'impératrice est enceinte de Maurice Roy. Et donc, il demande à Victor Segalen de lui trouver une solution. comment faire si on découvre que l'impératrice de Chine est enceinte d'un occidental. Alors là, le délire commence.
Ça paraît complètement délirant. Mais
c'est ça qui est bien en même temps. Et c'est ça qui est l'image. Vous commenciez l'émission en parlant d'imaginaire et de réel. On voit bien que Ségalène est complètement happée par cette espèce d'imaginaire et que Maurice Roy est une sorte de double extrêmement séduisant. Et puis aussi extrêmement dangereux.
Victor Ségalène va chercher une part d'exotisme dans ses expéditions, dans ses voyages. Une notion sur laquelle il s'est beaucoup interrogé. Il y a même consacré un essai. En voici un extrait.
Jeter par-dessus bord tout ce que contient de mésusé et de rance ce mot d'exotisme. Le dépouiller de tous ses oripeaux. Le palmier et le chameau. Casque de colonial, peaux noires et soleil jaune, et du même coup se débarrasser de tous ceux qui les employèrent avec une faconde niaise. Puis dépouiller ensuite le mot d'exotisme de son acception seulement tropicale, seulement géographique. L'exotisme n'est pas seulement donné dans l'espace, mais également en fonction du temps. Et en arriver très vite à définir, à poser la sensation d'exotisme, qui n'est autre que la notion du différent. La perception du divers, la connaissance que quelque chose n'est pas soi-même, et le pouvoir d'exotisme qui n'est que le pouvoir de concevoir autre.
Extrait d'essai sur l'exotisme de Victor Ségalène, Jean-Luc Ouattalem. Là encore, on est au cœur des préoccupations, des réflexions de Victor Ségalène.
Oui, son essai sur l'exotisme est un texte qu'il va, si j'ose dire, trimballer pendant près de 14 ans et dans lequel il va revenir sans cesse et la notion d'exotisme va évoluer à travers le temps. En fait, l'exotisme, pour lui, c'est une esthétique du divers, de la différence, de l'autre, en sachant que, selon lui, et il a raison, le divers décroît, les différences s'amenuisent et cela constitue, selon lui, un danger. Il ne veut pas être pareil aux autres. Il veut, au contraire, que les autres soient différents.
Et il va pas seulement s'intéresser à l'histoire, à la mythologie chinoise, il va aussi se confronter à sa géographie. Il va mener deux grandes expéditions à travers la Chine. La deuxième revêt un caractère vraiment archéologique. Il va faire des découvertes majeures en archéologie.
Oui, c'est ça. Il est aussi archéologue et lors de ce deuxième voyage à cheval pendant des milliers de kilomètres, cette fois accompagné d'Auguste Gilbert Devoisin et Jean Lartigue, ses deux amis, avec lesquels le soir ils tirent sur leur fumée, sur leur pipe d'opium, ils avaient des journées incroyables qui étaient 3 fois 8 heures, 8 heures de progression, 8 heures de sommeil, 8 heures où ils écrivaient leurs manuscrits, faisaient des photographies, procédaient à des estampages. Et lors de cette seconde expédition, ils se partagent un petit peu le territoire. Et Victor Ségalène fera 2 découvertes archéologiques majeures qui sont aujourd'hui encore considérées comme fondamentales. Il va avoir une sorte de pressentiment devant une montagne qui ne lui semble pas naturelle et qui va se révéler être le tumulus dans lequel se trouve très certainement le premier empereur de Chine, le fédérateur des royaumes, 3 siècles avant J.C.
Une découverte qu'il n'hésite pas à comparer à la découverte de la pyramide de Khéops.
Oui, alors il dit que déjà, là, ça a une forme un peu pyramidale, c'est un socle carré. Et il n'arrive pas non plus sur un terrain vierge, il lit beaucoup les annales, les chroniques, il s'intéresse, il correspond avec des érudits, etc. Et donc, en fait, c'est un maillage entre ses lectures, le terrain et un pressentiment. Et il arrive sur Axian, sur le tombeau de l'empereur, où, dit-il, il sait que c'est là, et il se retourne vers Jean Lartigue et il dit, le regard de Jean Lartigue me dit oui, nous y sommes. Et 60 ans plus tard, on retrouvera les 8000 soldats de l'armée impériale en terre cuite en dessous. Donc, découverte majeure de Victor Ségalène.
La deuxième,
c'est en mars 14, où il trouve un cheval combattant, la statue d'un cheval combattant, qui, sous son poitrail, écrase un barbare, en fait, écrase un. Mmh. Difficile à dire. Et en fait, c'est une bataille majeure pour l'histoire de la Chine. Et ce général chinois victorieux, on la retrouve dans tous les bazars de Chine, en petites figurines, etc.
Aujourd'hui, maintenant qu'elle a été découverte.
Et puis, il est obsédé par les licornes, et donc, il cherche des licornes sous terre. Mais vous savez que la licorne, évidemment, c'est un animal mi-réel, mi-fantasmé, mi-réel, mi-imaginaire.
C'est ça.
On y revient.
On retrouve l'ambivalence chez Segalen. Alors, cette deuxième expédition archéologique en Chine va être interrompue par la Première Guerre mondiale. Cela n'empêchera pas Victor Segalen de trouver le moyen de revenir en Chine avant la fin de la guerre. Mais il n'est déjà plus très loin de la fin mystérieuse et tragique de sa courte vie. Nous allons y revenir avec vous, Jean-Luc Coitalem, dans la dernière partie de ce temps d'un bivouac sur les pas de Victor Segalen.
On dit qu'il y fait toujours beau, c'est là que migrent les oiseaux. On dit ça de l'autre bout du monde. J'avance seule dans le brouillard, c'est décidé, ça y est, je pars, je m'en vais. Alors
L'autre bout du monde de Émilie Loiseau. Et merci à Muriel Pérez qui signe la programmation musicale de cette émission.
Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé sur France Inter.
Le premier voyage autour du monde dut en être le plus désenchanté. Fort heureusement, Magellan mourut avant le retour. Son pilote, lui, accomplit son métier sans se douter de l'effroyable chose, il n'y avait plus d'extrême lointain.
Un nouvel extrait d'essai sur l'exotisme de Victor Segalen, écrivain voyageur sur les traces duquel nous cheminons cet après-midi avec vous, Jean-Luc Coitalem. Cette désillusion dont parle Victor Segalen du voyageur qui n'a plus d'extrême lointain à découvrir, il l'a profondément ressenti à la fin de sa vie.
Oui, en même temps, il espérait rebondir encore. Il espérait, en 1918-1919, repartir encore en Chine, voire s'installer en Polynésie. Très étrangement, avec Augusto Gilbert de Voisin, il l'appelait Augusto, et peut-être Jean Lartigue, refaire peut-être une sorte de phalanstère, un petit peu ce dont avait rêvé Gauguin, puisque vous savez que Gauguin, en Polynésie, rêvait d'un regroupement d'artistes.
Il semble tout de même désabusé, hein. Il écrit quand il rentre de ses voyages qu'il n'y aura bientôt plus de mystérieux dans un monde homogène, c'est ce qu'il regrette. Mais il a dans ses bagages de quoi écrire 3 drames, 10 romans, 4 essais, 2 théories du monde, hein. Ce sont ces mots. Il a laissé beaucoup de livres inachevés en disparaissant prématurément.
Oui, il a laissé, je dirais, 95% de son œuvre non parue, pas toujours finalisée d'ailleurs, ou avec des versions successives. Et c'est grâce, je crois, à la sortie de la Pléiade en 2 tomes, sous la direction de Christian Doumet, où enfin maintenant on peut avoir une vision un petit peu plus globale, même s'il y avait eu une édition chez Robert Laffont il y a quelques années.
Nous évoquions le mystère de sa mort en début d'émission, qui laisse penser à une mise en scène. Il est avec son uniforme, il se trouve sur... un petit monticule qui peut rappeler le tumulus, justement, du tombeau de l'empereur chinois.
Oui, tout à fait. Alors donc, ça a été son premier voyage, la forêt du Huelguat, et finalement, ce sera son dernier voyage. Il est épuisé, physiquement épuisé. Il a 41 ans. Il est partagé entre 2 femmes. Il ne sait pas s'il va pouvoir repartir en Chine. Il a l'idée de créer une fondation franco-chinoise. Et il se cache, il se terre, je dirais, à l'hôpital d'Angleterre, au-dessus de Morlaix. Et il essaye de se sevrer de l'opium, il essaye de reprendre pied. Mais comme il dit, la vie s'en va de moi, tout doucement.
Dans un de ses recueils de poèmes, Stèle, il y a un texte qui résonne étrangement avec sa mort dans cette forêt de Huelguat, en Bretagne.
Moi, l'empereur ordonne ma sépulture. Cette montagne hospitalière, le champ qu'elle entoure, est heureux. Le vent et l'eau dans les veines de la terre et les plaines du vent sont propices ici. Ce tombeau agréable sera le mien. Je suis sans désir de retour, sans regret, sans hâte et sans haleine. Je n'étouffe pas, je ne gémis point. Je règne avec douceur et mon palais noir est plaisant.
Il y a, alors très rapidement parce qu'on arrive à la fin de cette émission, mais il y a quand même des similitudes avec les circonstances de sa mort.
Tout à fait, puisque lui-même trouvera la mort au sommet d'un tumulus en forêt. Et si votre lecteur avait continué son poème, on aurait entendu qu'il y avait en bas un petit village qui fumait. Et effectivement, en bas du tumulus, en Bretagne, on voit le petit village du Huelguat qui peut fumer l'hiver. C'est une mort triste, comme toutes les morts, évidemment, mais c'est une mort, je pense... mise en scène avec quelque chose d'un peu féodal, comme un chevalier qui vient mourir dans une forêt enchantée.
Merci Jean-Luc Coitalem. Je rappelle le titre de votre biographie que vous signez chez Stock, Mes pas vont ailleurs. Il y a bien sûr aussi, pour découvrir l'œuvre de Victor Segalen, La Pléiade. On peut commencer peut-être par René Leys, ce roman qui est peut-être le plus accessible. Un grand merci à vous, Jean-Luc Coitalem. Un petit mot en ces temps où l'on a bien besoin de s'évader. Je signale que le festival Curieux Voyageurs, à défaut de vous accueillir comme chaque année à Saint-Étienne, vient d'ouvrir ses portes virtuellement jusqu'au 28 mars. Il vous propose en ligne une sélection de films à voir et puis des rencontres avec des voyageurs en tout genre. Nous allons mettre le programme de ce festival Curieux Voyageurs sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Merci à vous pour les messages que vous nous laissez sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac. À samedi prochain pour de nouvelles aventures et dans un instant, Jean-Claude Amezen et les épaules de Darwin.